Bienvenue sur PFM 99.9 si vous nous rejoignez.
PFM 99.9.
Une trentaine d'émissions par semaine, beaucoup de musique en tout genre, de la littérature et des infos.
99.9 Radio PFM.
La Côte des Miracles.
Non mais c'est une blague. C'est ça que vous me proposez? Donc ça y est, on y est quoi. C'est la Cour des Miracles.
Mesdames et messieurs, c'est la Cour des Miracles. Je plaisante pas.
Oui, le son étant un phénomène vibratoire issu d'une excitation volubile, on imagine aisément la diffusion de ces dites vibrations.
Tu vas tout de même aller la voir de notre part. Et tu lui diras que la Cour des Miracles ne l'oublie pas.
Moi, c'est mon émission préférée.
La Cour des Miracles, Radio PFM.
La Cour des Miracles!
Yes, bienvenue dans la Cour des Miracles sur Radio PFM 99.9. La Cour des Miracles, c'est votre dernière agora de l'underground hip-hop, dub, électro, un peu tout ça, ça déchire pas mal. Yes, on est reparti une heure ensemble dans la Cour des Miracles et ça c'est super bon, ça va faire plaisir, tiens. Bonjour à vous tous. Cour des Miracles un peu spécifique hein, aussi, un peu spécial parce qu'on va pas que passer de la musique, on va écouter de la musique évidemment. Mais pas que, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pendant une heure? On va rendre hommage à Akira Toriyama, le grand Akira Toriyama qui a démocratisé le manga, que ça soit au niveau vidéoludique, au niveau vidéo, au niveau ludique, au niveau de tout en fait, au niveau de la lecture, au niveau de la culture, etc. Donc big up Akira Toriyama. Ça sera en seconde partie d'émission, tiens. En première partie d'émission, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur Dune. Vous savez, Dune, le truc, on s'en bouffe plein, là, depuis deux semaines, trois semaines, un mois, même plus. Enfin, voilà, quoi, on bouffe plein de sable. Donc, on va quand même revenir sur Dune. Et on va aussi revenir sur un artiste qui fait des original soundtracks. On reste dans le cinéma, bien évidemment. Ça sera qui, déjà? Ça sera Maurice Jarre. Tiens, on va commencer, justement, avec Dune. Dune, pourquoi Dune? Parce que au cinéma ça envoie du bois quoi quand même. Dune, c'est pas du Marvel, c'est pas du DC Comics, et ça fait du bien à Hollywood, bien évidemment. Donc voilà, on va s'écouter un petit interview de justement Denis Villeneuve qui était dans une émission québécoise qui est On n'est pas couché, et puis après on va s'écouter un petit peu de Dune, et puis voilà, c'est déjà très bien. C'est la Cour des Miracles, Radio PFM 99.9.
Dune, bon, c'est un roman de Frank Herbert. C'est l'histoire des Atreides et des Harkonnens qui se disputent l'épice, qui est une ressource précieuse qu'on retrouve sur la planète de sable, Arrakis, qui est aussi connue sous le nom de Dune. On y suit le jeune Paul Atreide, qui a le destin de son peuple.
Ben, c'est une adaptation d'un roman qui est devenu de plus en plus pertinent avec le temps. C'est-à-dire que quand Frank Herbert a écrit son roman à la fin des années 60, ouais. Il faisait comme un portrait du 20e siècle, mais c'est comme s'il y avait une
vision prophétique. Vision,
oui, exactement, merci. Mm. J'avais le mot en anglais. La vision prophétique du 21e siècle par rapport à l'impact du colonialisme, à la surexploitation des ressources naturelles. Moi, ce qui me fascinait dans ce roman-là, c'est, entre autres, l'idée que des gens arrivent à canaliser les voix de leurs ancêtres, les forces du subconscient, l'héritage génétique pour en faire quelque chose de positif. Tu sais? C'est-à-dire que toutes les impulsions inconscientes qu'on a qui entravent notre liberté, mais eux arrivent à canaliser ça pour en faire quelque chose de ça, c'est quelque chose qui m'impressionnait. Et aussi, tout ce qui parle de la surexploitation des ressources naturelles, ou tout ça, c'était quelque chose que je trouve vraiment pertinent. Mais toute cette utilisation-là de la biologie comme background dans le livre, c'est absolument phénoménal. C'est-à-dire que c'est un livre qui est basé sur des expériences scientifiques en biologie, d'une observation de cette expérience scientifique.
How can you give up?
la naissance de quelque chose de féministe dans l'écriture de Frank Herbert. Il y a des relents de féministes qui sont importants. Puis la relation de Paul avec sa mère, d'avoir une force, d'avoir ces forces féminines-là autour de lui qui vont le guider. Mm-hmm. C'est quelque chose que, dans lequel, honnêtement, je me retrouve, moi. Puis je dirais, il y a ça.
Les forces féminines t'ont guidé, toi?
Oui, je veux dire, j'ai été élevé par une mère que je considère féministe, par des grands-mères qui sont des personnages assez forts.
Est-ce que vous croyez en Paul?
Il y a des signes. Le prophète, pourquoi ce serait une mauvaise chose? Il faut t'en servir!
Parce que toutes mes visions laissent présager des horreurs.
Parce que tu perds le contrôle.
Parce que je le prends. Johnny, tu crois en moi?
Paul Atreides est toujours en vie.
Quand j'ai conçu le film avec, avec Patrice Vermette, mais aussi avec Greg Fraser, le directeur de la photographie, on voulait faire un hommage au grand écran, c'est-à-dire il y a tout un travail sur la profondeur, un travail sur la mise en scène, un travail sur le cadrage, sur la manière que le film est monté. Oui, il y a un côté immersif qu'on perd quand on ne le voit pas au cinéma.
Ma planète Arrakis est tellement belle quand le soleil est bas. On peut alors voir sur le sable l'épice qui tourbillonne au gré du vent. Les étrangers ravagent nos terres sous nos yeux.
Aucun satellite au-dessus d'Arrakis. Personne ne saura comment les Atreides sont morts.
À ce sujet, le duc Leto Atreide n'a aucune importance à nos yeux. Mais sa concubine est sous notre protection et par extension, son fils. À ce titre, accordez-leur la dignité d'un exil.
La maison Harkonnen n'envisagerait jamais de violer le caractère sacré de votre ordre. Je vous donne ma parole. Nous ne leur ferons aucun mal.
Si le fils du duc reste en vie...
Aucun Atreide ne survivra.
Monseigneur, vous avez donné votre parole à la sorcière. Elle voit tout ce qui se passe.
J'ai dit que je ne leur ferai aucun mal, et c'est la vérité. Mais Arrakis est Arrakis. Et le désert prend les faibles. Mon désert. Mon Arrakis. Ma dune.
La cour des miracles. Dune 2, voilà, Dune 2, c'est de la balle, hein, Dune 2, voilà. On est assez, tout le monde est assez d'accord pour ce genre de choses. Il y a beaucoup de louanges par rapport à ce film. Et je comprends aussi qu'on puisse pas l'aimer. Mais il y a un côté très organique, très abrasif qu'on peut retrouver dedans, qui se fait plus depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années même, j'ai envie de dire, dans le cinéma hollywoodien. Et ça, pour Denis Villeneuve, en fait, c'est tout à son honneur, quoi. Donc je voulais commencer cette émission en parlant un petit peu de Dune 2, parce que tout est bien foutu dans Dune, en fait tout a été savamment étudié, savamment réfléchi, que ça soit au niveau du son, que ça soit au niveau de l'image, que ça soit au niveau de l'histoire, hein, bien évidemment. Si vous pouvez le pirater, vous pouvez le regarder en VOD, vous pouvez aller le voir au cinéma, bien évidemment. Et de toute façon, vous pourrez le retrouver pendant des dizaines et des dizaines d'années, parce que c'est un film qui vieillit très bien, qui va vieillir très bien, en fait, parce que il est assez humble dans sa façon d'amener les choses. Allez, on va quitter justement le côté très aride d'Arrakis. On va repartir justement, en France, mais toujours dans le cinéma. Évidemment, qui dit Dune dit OST de fou, soundtrack de malade. Et Denis Villeneuve l'avait dit, hein, pour son OST, pour sa musique, il avait utilisé déjà ce qui se faisait. Et le premier nom qui vient comme ça à tout le monde, souvent, c'est Lawrence d'Arabie. Lawrence d'Arabie, c'est sorti en 1962. Et c'était de la balle aussi, et ça avait un peu changé certaines choses. Enfin, ça avait créé certains codes. Et justement, Lawrence d'Arabie, sorti en 62, c'était Maurice Jarre qui avait géré l'OST. Maurice Jarre, c'est le père de Jean-Michel Jarre, évidemment. Donc, on va s'écouter un petit peu de Maurice Jarre et de ce qu'il pense de son œuvre aussi, Maurice Jarre. Vous êtes toujours dans la cour des miracles sur Radio PFM 99.9. On sent les similitudes.
Commencer, eh bien, on démarre par le début, les débuts de Maurice Jarre. Il a débuté avec Pierre Boulez, et à ce moment-là, je crois qu'il était bien loin de penser qu'il serait un musicien de musique de film.
Ça s'est passé en plusieurs temps. J'ai commencé la musique très tard. J'ai commencé la musique à 16 ans. C'est-à-dire qu'avant 16 ans, je ne savais pas ce que c'était qu'un do ou un ré.
Et j'avais appris la musique à
16 ans. J'ai appris la musique à 16 ans parce que mon père voulait que je devienne ingénieur et il m'a forcé de faire 2 années d'école centrale d'électricité après le baccalauréat. J'ai commencé par le théâtre. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer d'abord Jean-Louis Barrault, et là, c'est là où j'ai rencontré Pierre Boulez, que je connaissais déjà du conservatoire. Et Pierre Boulez, étant un magnifique pianiste et aussi il jouait des ondes Martenot, moi je jouais tous les instruments à percussion possible, imaginable, de xylophone au timbal, en passant par la caisse claire et les vibraphones. Et nous avions donc c'est tous ces instruments derrière la scène.
Ses apparitions en France sont rares, très rares. L'homme est discret et pourtant, il est l'un des plus grands compositeurs de musique de film avec à son palmarès 3 Oscars décrochés à Hollywood. Thierry Stanfleur et Guy Nevers l'ont rencontré pour le 12-13.
Ces envolées lyriques ont laissé tant de souvenirs aux cinéphiles.
C'est Maurice Jarre.
Consacré 3 fois aux Oscars à Hollywood, Maurice Jarre n'est pas seulement le compositeur du célébrissime thème de Lawrence d'Arabie, de David Lean. Il a aussi travaillé avec Visconti, Peter Weir et tant d'autres, acceptant parfaitement les contraintes de cet exercice difficile pour un musicien.
J'ai écrit des musiques pour orchestre, disons, et là, on a vraiment tout le temps. Et quelquefois, on a tendance à être un peu trop bavard, alors que dans une musique de film, vous avez 3 minutes 43 secondes, un quart pour vous exprimer et pour servir le film. Que la musique arrive là pour vraiment exprimer quelque chose. Si c'est simplement pour souligner l'action, pour souligner la scène d'amour, c'est vraiment pas intéressant. C'est comme mettre un petit peu trop de sucre sur le gâteau. Vous savez, la musique de film a évolué tellement. Quand on pense que dans les années 30, on mettait la musique dans un film pour cacher les mauvais bruits, et puis progressivement, on a essayé de créer une chose qui était plus intéressante.
Installé depuis plus de 30 ans à Los Angeles, Maurice Jarre regrette la pauvreté des scénarios qu'on lui propose aujourd'hui. Mais son enthousiasme pour le 7e art semble intact et sans nostalgie excessive pour un âge d'or auquel il fut pourtant étroitement associé.
What is it, Major Lawrence, that attracts you personally to the desert?
It's clean.
Lawrence d'Arabie, sorti en 1962, bien évidemment, là on l'entend. Juste avant, tiens, on a entendu, c'était Gorille dans la brume. C'était sorti en 88, c'était avec Sigourney Weaver, hein, évidemment. Thank you. Maurice Jarre, voilà, c'était un peu pour illustrer justement ce côté OST, original soundtrack. C'est des hymnes à tous ces morceaux-là. Surtout ce morceau-là, Laurence d'Arabie. Justement, on sent évidemment que Denis Villeneuve l'a utilisé, pour son Dune et puis tout ça. Et c'est tout à son honneur, bien évidemment. Moi, j'aurais fait pareil, et puis tout ça. On va continuer avec un Maurice Jarre. Quel morceau? Alors j'ai oublié. Oui, c'est Docteur Zivago, évidemment. Docteur Zivago, 1965. ...1965, voilà, avec Maurice Jarre, Docteur Zivago. On ressent cette influence, évidemment, sur bon nombre de morceaux actuels, mais aussi des morceaux d'avant, auxquels, en fait, ils se sont justement fusionnés avec bon nombre de compositeurs. Tiens, on passe à une seconde partie dans la Cour des Miracles. On va faire un petit hommage à Akira Toriyama. Akira Toriyama qui a tout simplement démocratisé le manga. Avec Dragon Ball Z entre autres, Dr. Slump, avec certains jeux vidéoludiques. Et on va s'écouter justement des OST du manga Dragon Ball Z. Donc je remercie justement Shunseki Kikuchi et Keiju Ishikawa pour les prochains morceaux qui vont arriver. Mais juste avant, on va s'écouter en 2-2 justement Pablo Mira qui nous parle de Dragon Ball Z. Vous êtes bien dans Raccord des Miracles sur Radio PFM 99.9.
DBZ, c'est l'histoire du Saiyan Son Goku, un alien mi-Gori, mi-Gérard Vivès, qui vit avec sa femme, Chichi, qui a toujours ses ragnoutes, et Gohan, son fils, en apparence un babtou fragile, mais qui renferme un véritable Lopez du 63. Goku, il se fait des barbecues avec ses potos, dont Krilin, mais aussi Piccolo, Petit Cœur, en VF, Mehmet, en version turque. Mais dès le début de la série, il se fait embrouiller par Raditz, son refrain qu'il a retrouvé sur Saiyan d'avant. Et Raditz, il a peut-être pas de futal, mais il a des muscles et il est imbattable. Alors pour le fumer, Goku le ceinture, pendant que Piccolo, l'homme courgette, transperce les deux frangins avec un Makinko Sapo. En japonais, ça veut dire mais j'ai bobo. Goku y meurt, il va au paradis et il rate l'arrivée des deux nouveaux méchants, Vegeta et un Chipendel nommé Nappa. Heureusement, Goku ressuscite, il atomise le gros crâne chauve de Nappa et il fait un tête-tête contre Vegeta qui finit par s'enfuir en laissant une mauvaise critique sur la page TripAdvisor de la Terre. Vegeta y rejoint Freezer, son maître de stage qui est pas content de lui, qui lui confie une nouvelle mission, aller sur la planète des hommes artichauts et réunir les 7 boules de geisha en cristal pour obtenir l'immortalité et Turok sur N64. Donc, direction Namek. Namekina, on dialecte un pasito palante Maria. Là-bas, la Team Goku, elle essaie d'empêcher Zeuser de réaliser son vœu. Mais Freezy, c'est pas le même bail que Vegeta. Et au cours du combat, il tue Krillin, qui meurt dedans son corps sans nez. En voyant son pote cané, Goku il devient ouf et il se transforme en super sosie de Cyril Ferraud. Goku gagne le match, mais à cause d'un coup de tarba de Freezer, la planète elle fait bim bam boum, elle fait pchit et elle fait vroom, et tout le monde pense que Goku et Freezy la castagne sont des Saiyans. Un an et demi plus tard, une énergie de fils d'up se rapproche de la Terre. C'est Freezer qui est de retour après avoir été rafistolé par Olivier de Carglass. Heureusement, il est intercepté par Trunks, le fils de Vegeta et Bulma, venu du Turfu, qui le transforme en sa chimie. En fait, Trunks, il est là pour accueillir Goku, qui est pas mort, et puis pour le mettre en garde. Dans 3 ans, des cyborgs créés par Jérôme Bonaldi ravageront l'humanité pire que la technodance italienne. Et 3 ans plus tard, les cyborgs sont bien là, mais ils se font tous absorber par Cell, un androïde lézard capable de voler la puissance de n'importe qui en le gommant avec son pipou. Et c'est Gohan qui a pour mission de mettre KO le maestro de la stouquette aspirante. Le gosse il est doué, mais il a du mal à se lâcher, alors pour le motiver, Cell démoule du cul des petits Cell qui marave ses copains. Mais pour Gohan, le déclic il se fait quand son pote robot C16 lui dit juste avant de s'éteindre:
viens au secours de ceux qui t'aiment, promets-moi d'épargner la nature et les gilets jaunes.
Et là, Cell, il lui écrase sa grosse tête pas totalement chauve. Gohan, il libère enfin toute sa puissance. Et Cell, il commence à tremper le sloggy. Il est là:
wow, frérot, chill. Prends un tic-tac.
Mais comme Gohan, il veut plus rien savoir, Cell, il utilise sa fameuse technique. J'ai revanché. Explosion. Chance pour les gentils, Goku se sacrifie et il se téléporte avec Cell à Vaux-en-Velin. Mais ce gros fils de Gecko, il survit grâce à son noyau en surimi. Et quand il revient, il envoie un énorme Kamehameha à Gohan, qui fait de même. Là, les deux, ils sont en mode bras de fer, t'as Rover the Top. Mais Gohan retourne sa casquette et il explose Cell, ce qui lui permet de remporter le combat et de repartir avec un super camion orange. Des années après, faut gérer le boss final de la série, Majin Buu, un démon né de l'union de Yuan Ryu et d'un paquet de Malabar. Lui, il obéit à Babidi, un sorcier extraterrestre qui veut détruire l'humanité, parce qu'Akira Toriyama l'a dessiné avec le visage d'Eric Zemmour. Le problème, c'est que Buu devient de plus en plus fort en enchaînant les transformations. Ça commence avec sa version 1.5 racisée qui se bat contre lui-même, ce qui va donner sa version 2.0 qui va se battre contre Gotenk, la fusion de Trunks et de Sangoten, puis contre Gohan, version 3.2, après avoir absorbé Gotenk, version Super Saiyan 3, puis contre Goku, version coupe-mulet, qui affrontera Buu, version Piccolo, qui deviendra Buu, version Sangohan, version 6.9, lui-même Yajirobe, version Hunter x Hunter, 4. Non ! Reste attentif dans ton attention. Bref, pour avoir une chance de le goumer, Goku doit fusionner avec Vegeta grâce à des boucles d'oreilles qu'ils ont pétées aux Italiens qui ont remporté l'Eurovision. Et quand ils fusionnent, ça donne... Muriel Boll. Toujours dans les bons coups, la Santanico Pandemonium du vice. Non ! Ça donne Begito, le GOAT, il est intouchable. Et quand il parle, il y a automatiquement quelqu'un qui fait ses bacs. Mais le gars, il a trop pris la confiance et il se fait engloutir par Buu, ce qui lui permet quand même de délivrer tous les rails qui se sont fait absorber avant lui. Une fois que c'est fait, Buu retrouve sa forme originale, celle de Mathieu Valbuena, puis il détruit la Terre. Finalement, c'est Mister Satan, de son vrai nom Tom Selleck, qui convainc les Terriens d'envoyer leur sephore à Goku pour son Genki-Dama. Il est là: la vie de ma mère, levez tous vos mains au ciel, sinon je demande à Elie Moon de refaire un album de Bossa Nova. Là, tout le monde obéit, et Goku pulvérise Buu, qui se désintègre lentement, comme les cheveux d'Yves Calvi. Voilà, tu sais tout. T'as d'autres questions ou pas? Intéresse-toi au nanananisme.
Keiju Ishikawa,
la cour des miracles.
押し寄せてくる泣いてるバーニャにワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう夢中になれるものが いつか君を薄で奴にするんだ だってピカ空は晴れていっぱいおっぱい僕ケムチトラブルと遊べなんちゃ多いウィーカーパワードラゴンボール、yeah! イライレ道具させろ。ヘイチャラの花を咲かせてみんなを笑わせちゃえ。いたずら好きな君が夢を競うライバルになるのさ。なってピーカー頭さえてラーメンのパイ母の浮きしてきます。はしゃげお茶目やる We got power ドラゴンボール
Évidemment, on remercie Shishi avant chaque combat et merci aussi à Sunshuke Kikuchi pour cette OST. La Cour des Miracles, évidemment, c'est sur les ondes du 99.9, c'est sûr aussi sur les internets, www.radiopfm.com, Akira Toriyama, big up!
Miracles.
La cour des miracles.
La cour des miracles.
La cour des miracles.
Sparking.
Hikaru kumo suki nuke fly away. Fly away. Karada juu ni hirogaru panorama.地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗り飛行みたいね
Thank you.
Des miracles,
la cour des miracles,
la cour des miracles,
PFM, sans pub.
Yes, la cour des miracles, bah c'est fini pour cette semaine. On se retrouve bientôt. Voilà, on voulait rendre un dernier hommage évidemment à Akira Toriyama. Donc par rapport à ça, évidemment on a passé Shunsuke, Kikuchi, Kenju Ishikawa. Voilà, c'est Akira Toriyama. Il a démocratisé le manga tout simplement. Donc big up à toi, de tes 68 ans, tu nous vois de l'autre côté. Donc voilà, bon, on n'a pas les 7 boules de cristal pour te ramener à la maison, mais bon, c'est pas grave. En attendant la prochaine émission, tiens, chérissez votre famille, vos amis et tous ceux qui vous entourent. Tiens, on va finir avec Jacques Loussier, avec un petit solo de piano Jean-Sébastien Bach. C'était à Munich en 1997, c'était la Cour des Miracles. Bisous à vous.
FM. PFM, sans pub.